SBS Radio.
Et tout d'abord, les grands titres de ce jeudi. Le Parti libéral donnera ses votes préférentiels aux travaillistes avant le Parti One Nation aux prochaines élections fédérales. La Première ministre de la Grande-Bretagne, Theresa May, s'engage à démissionner si son accord de Brexit est adopté par les députés. En Algérie, le départ du président Bouteflika ne suffira pas pour sortir de la crise, selon les chercheurs, les opposants, les activistes et les jeunes du pays. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que le Parti libéral donnerait ses votes préférentiels d'abord au Parti travailliste aux élections fédérales avant de soutenir le Parti One Nation. Scott Morrison a déclaré être déçu des révélations que One Nation aurait demandé un financement de la National Rifle Association des États-Unis pour essayer de changer les lois australiennes sur le port d'armes.
This is a decision which is based on our strong view about the sanctity of Australia's gun laws and to ensure that at no stage that those things should ever be put at risk. And it's very important, having been the party that introduced those laws, that we ensure that they are forever protected and there can be no compromise when it comes to those issues or any trading on the issue of those gun laws.
Scott Morrison et Pauline Hanson, la chef de One Nation, devraient s'adresser au scandale qui a touché son parti. La sénatrice Hanson est également confrontée à de sérieuses questions après avoir insinué, il semble, que le massacre de Port Arthur en Tasmanie en 1996 était un complot du gouvernement de l'ancien Premier ministre John Howard. La caméra cachée, diffusée par Al Jazeera, l'a montré, affirmé qu'elle avait beaucoup de questions sur Port Arthur. Et sur la chaîne 7, Mark Latham, membre du Parlement et membre de One Nation en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que la sénatrice Pauline Hanson ne lui avait jamais posé la question du massacre.
I had a discussion again during the New South Wales election campaign with Pauline about the making of the Howard gun laws, and she didn't raise any questions about Port Arthur. And we proceeded with a policy very much based on John Howard's response to that tragedy. And everyone should feel lasting sympathy for what happened that day.
Mark Latham est le sénateur et chef des Verts, Richard Di Natale, et se dit choqué par les événements au sein de One Nation.
Oh, it's disgraceful, and it's just so disrespectful to the many victims of the Port Arthur massacre. I mean, imagine being a family member listening to that. Look, it's an insight into the scary world that is the One Nation Party, and it's just a disgrace that Scott Morrison continues to refuse to put One Nation last. I mean, he should be sending a very strong message that these sorts of conspiracy theories has no place in Australia.
Richard Di Natale, le chef du Parti des Verts, et la chef adjointe du Parti national, Bridget McKenzie, défend, quant à elle, les bénéfices du port d'armes en Australie.
Too often I think law-abiding shooters and the businesses, the over 1,000 small businesses that actually employ Australians and support our sporting shooters and our farmers indeed to use their firearms responsibly, are demonised in this country. And they shouldn't be. They do provide incredible social benefits, as I said, by participating in a club and a sport. Incredible economic benefits through the stimulation of local regional economies.
Et c'était Bridget McKenzie, la chef adjointe du Parti national. Le gouvernement fédéral s'est félicité de la décision de Facebook d'interdire les éloges, le soutien et la représentation du nationalisme blanc et du séparatisme blanc sur ses plateformes de médias sociaux. Les dirigeants mondiaux ont exhorté Facebook, Twitter et Google à supprimer de leurs plateformes les contenus suprémacistes et néo-nazis. Le ministre australien de la Défense, Christopher Pyne, a déclaré que c'était un geste nécessaire.
I think it's bizarre, quite frankly, that what you couldn't get away with in your newspapers, you can apparently get away with saying on the internet. I've always thought it was a mistake to have allowed that to happen. I don't believe that the anonymity of things like Twitter should ever have been allowed to have developed in the way that they have, where you can have people saying things about other people on Twitter that you'd never be able to publish in the Sydney Morning Herald.
Christopher Pyne, le ministre australien de la Défense. Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, lance un appel aux électeurs chinois et cherche à se démarquer des propos sur l'immigration formulés par l'ancien chef du Parti travailliste en Nouvelle-Galles du Sud, Michael Daley. Une vidéo a été présentée, je rappelle, lors de la dernière semaine de la campagne électorale en Nouvelle-Galles du Sud, dans laquelle Michael Daley racontait à un public lors d'un meeting que des jeunes fuyaient Sydney parce que des Asiatiques titulaires d'un doctorat prenaient leur emploi. Bill Shorten a déclaré avoir reçu de nombreuses questions au sujet des commentaires, mais a rassuré environ 500 participants issus de la communauté chinoise australienne du fait que le Parti travailliste est engagé à continuer à promouvoir une Australie multiculturelle.
Hey, thanks everybody. I learned a bit and I hope you learned a bit about what Labor's thinking. I look forward to talking to you again. Really appreciate the time. Xie xie.
Les électeurs sont rassurés, des mesures sont prises pour lutter contre les cyberattaques lors des élections fédérales prévues en mai prochain. Les cyberattaques et la désinformation en ligne lors des élections présidentielles aux États-Unis en 2016 ont suscité des inquiétudes dans le monde entier causées à la démocratie. Le commissaire aux élections, Tom Rogers, s'est dit satisfait des processus mis en place en Australie, mais a admis qu'il n'y avait aucune garantie que le déroulement des élections ne poserait pas de problème. Les Australiens sont priés de se faire vacciner contre la grippe. 19 000 cas ayant déjà été rapportés cette année. Les chiffres montrent qu'environ une personne sur 10 est allée à l'hôpital avec la grippe l'année dernière et s'est retrouvée en soins intensifs. La pharmacie Guild of Australia affirme que la vaccination offre une protection contre les grippes les plus courantes. En Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May a annoncé hier qu'elle quitterait ses fonctions si son accord de Brexit était adopté. Précision de Muriel Delcroix pour Radio France Internationale.
De nombreux Brexiteurs conservateurs réclamaient sa tête pour prix de leur ralliement, dont acte. Theresa May accepte de partir plus tôt qu'elle ne le voulait, mais espère avoir ainsi accru de façon significative ses chances de voir le Parlement enfin approuver son accord de divorce. La dirigeante n'a pas évoqué de date précise pour son départ, mais on peut s'attendre à l'organisation d'un scrutin interne pour la remplacer au mois de mai. En tout cas, cette annonce a provoqué la colère de nombreux députés de tous bords, pour qui ce sacrifice de Theresa May est en réalité l'ultime chantage de la dirigeante à son parti et l'incite à voter pour son accord pour de toute autre raison que l'intérêt du pays. Cette promesse suffira-t-elle malgré tout à convaincre les plus irréductibles des Brexiteurs de rentrer dans le rang ? D'autant que pour le moment, les unionistes nord-irlandais du DUP refusent obstinément d'approuver cet accord, même s'ils se murmurent qu'ils pourraient au final choisir de s'abstenir et ainsi faciliter la ratification du texte. Enfin, le gouvernement va devoir aussi trouver une parade au veto du président de la Chambre, John Bercow, qui a redit haut et fort qu'il ne permettrait pas que le même texte soit voté une troisième fois sans changement substantiel.
Muriel Delcroix pour RFI. Il y a aussi le scénario d'un second référendum en Grande-Bretagne. L'Union européenne a débattu cette question. Précision de Johanna Hochstein pour RFI.
Donald Tusk a justifié les propos qu'il a tenus avant le sommet de la semaine dernière. Le président du Conseil européen insistait pour donner du temps aux Britanniques.
Nous devrions être ouverts à une longue prolongation si le Royaume-Uni souhaite repenser sa stratégie sur le Brexit, ce qui signifie bien sûr la participation du Royaume-Uni aux élections. On a entendu des voix dire que ce serait dommageable ou gênant pour certains d'entre vous. Une telle pensée est inacceptable. Vous ne pouvez pas trahir les 6 millions de personnes qui ont signé la pétition de révocation de l'article 50 ou la majorité croissante des gens qui veulent rester dans l'Union européenne.
Une remarque guère appréciée par Nigel Farage, l'eurodéputé qui a mené la campagne du Brexit.
Monsieur Tusk, si vous pensez que le peuple britannique a changé d'avis sur le Brexit, vous faites complètement fausse route. Parce qu'en fait, d'après nos derniers sondages, 15% et dans certains cas jusqu'à 20% de personnes supplémentaires voteraient pour le Leave. Si nous avions un second référendum, le Leave l'emporterait avec une marge encore plus grande.
Des chiffres avancés par Nigel Farage qui n'ont absolument rien à voir avec les derniers résultats des sondages réalisés par des instituts indépendants.
En Algérie, le chef d'état-major des armées a recommandé d'engager la procédure qui permettrait de destituer le président Bouteflika. Les proches du président réclament aussi sa démission. Reportage Leila Berato pour RFI.
Dans un communiqué envoyé aux journalistes ce mercredi matin, le RND, deuxième parti du pays, recommande la démission du président de la République dans le but de faciliter la période de transition. Pourtant, le RND, c'est le parti d'Ahmedou Yahya, l'ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, en poste jusqu'au 11 mars dernier, trois fois premier ministre depuis 2003, un fidèle du président. C'est donc un nouveau soutien, un de ceux que l'on croyait indéfectible, qui se détourne du président algérien, et ce n'est pas le seul. Cet après-midi, la centrale syndicale officielle, l'UGTA, a déclaré son soutien à l'appel du chef d'état-major. Cela signifie que la pression est trop forte pour rester aux côtés du chef de l'État. La pression populaire d'abord, cette pression de la rue pousse aussi les partis d'opposition à prendre position, comme le Parti des travailleurs qui vient d'annoncer la démission de ses 11 députés du Parlement. L'appel du chef d'état-major, qui est un fidèle du chef de l'État, va probablement accélérer les défections du camp du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 1999.
En France, Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi quittent le gouvernement. La ministre chargée des Affaires européennes avait annoncé son départ pour mener la liste La République en marche aux élections européennes, et les secrétaires d'État vont se consacrer à la campagne des municipales à Paris. Reportage Véronique Rigolet pour RFI.
Ils quittent le gouvernement au même moment, à un an des élections municipales, pour devenir de véritables rivaux. Après avoir été collègues, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi vont désormais se livrer une féroce bataille pour tenter d'obtenir l'investiture de leur parti et partir à la conquête de Paris. Les sondages les donnent au coude à coude et ils devront aussi affronter un député de leur propre majorité, Cédric Villani, qui rêve lui aussi de conquérir la capitale. Avec Nathalie Loiseau, ces trois départs du gouvernement ouvrent en tout cas bien sûr la voie à un remaniement gouvernemental, pas un big bang, mais un lifting plutôt, un remplacement poste à poste. D'ici à la fin de la semaine, dit-on, peut-être vendredi quand le Premier ministre sera rentré du Qatar, ou même encore ce week-end, ce n'est pas exclu. Au plus tard, en tout cas pour lundi prochain, puisqu'un Conseil des ministres est d'ores et déjà programmé en tout début de semaine prochaine.
Et puis l'opposant Robin Reda des Les Républicains réagit. Il est sur RFI.
Le départ de messieurs Griveaux, Majoubi et Madame Loiseau, ça ne change pas énormément de choses à l'efficacité de ce gouvernement vis-à-vis des Français. Et je pense que si vous allez dans la rue demander ce qu'ont fait ces ministres et quels sont leurs bilans au gouvernement, les Françaises et les Français auront bien du mal à répondre. Et moi, au fond, c'est ça qui me gêne. C'est que d'un côté, effectivement, on clarifie la candidature de M. Griveaux à la mairie de Paris, de M. Majoubi, qui n'ont pas de bilan à la tête du gouvernement. Et moi, je trouve toujours ça très dur d'aller devant les électeurs en disant « Voilà, je n'ai rien fait pour la France et donc je vais essayer de faire des choses pour Paris ».
En France, toujours, le Conseil d'État annule le décret qui permettait au gouvernement de nommer les consuls dans 22 pays du monde, dont la nomination de Philippe Besson comme consul à Los Angeles. C'est un proche du couple présidentiel. Reportage Pierre Olivier pour RFI.
Pour le Conseil d'État, ce n'est pas au gouvernement de nommer les consuls généraux. Dans sa décision, la haute juridiction administrative annule le décret d'août dernier qui permettait à l'exécutif de nommer les consuls de 22 villes, parmi lesquelles Bombay, Shanghai, Marrakech, Sydney et bien sûr Los Angeles, le poste convoité par Philippe Besson. L'ami du couple présidentiel et écrivain avait été nommé en août dernier, quelques mois après la parution de son livre « Un personnage de roman » relatant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Vivement critiqué pour cette nomination, le chef de l'État s'était alors défendu de tout copinage pour service rendu. De son côté, la CFDT du ministère des Affaires étrangères avait immédiatement prévenu qu'elle demanderait l'annulation devant le Conseil d'État du décret permettant cette nomination. En l'annulant ce mercredi, le Conseil d'État ferme donc la porte à la nomination de consuls non diplomates issus de la société civile. Le gouvernement peut toutefois nommer un seul consul général dans le monde, celui de Jérusalem, en raison du contexte géopolitique local.
Un mot de sport avec le Bayern Munich qui a conclu le transfert du défenseur français du Real Madrid, Lucas Hernandez, pour 80 millions d'euros. Il arrivera en juillet prochain. D'autres nouvelles sportives avec notre collègue Christophe tout à l'heure dans le programme. Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie. Perth maximal de 31 degrés. Adélaïde 27, Melbourne 27, Hobart 23, Canberra 24, Sydney 26, Brisbane 27, Cairns 30, Darwin 33 et à Alice Springs, maximal de 31 degrés. Rappel des grands titres de ce jeudi, le Parti libéral en Australie donnera ses votes préférentiels aux travaillistes avant le Parti One Nation aux prochaines élections fédérales. En Grande-Bretagne, la Première ministre Theresa May s'engage à démissionner si son accord de Brexit est adopté par les députés. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench. sbs.com.au